nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes. Allez,
bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes, c'est formidable, le lundi 12 avril, il est 8h30, et avec moi Corto, salut Corto.
Salut Ben, et bonjour à tous.
Au programme de cette matinale, un joli programme, il est passé ce matin vers 6h du mat, Jean Sté des frères Jacquard quitte la Lozère, il est venu nous faire un petit coucou, on a pris le direct à 6h du matin et on s'est bien marré, je vous propose de réécouter ça tout à l'heure, juste après l'édito. Puis en deuxième partie d'émission, Jean-Marc Chauvet, journaliste pour L'Échappée Belle, une émission de France 5 qui passe tous les samedis. Et comme il est en tournage en Lozère en ce moment, c'est l'occasion qui fait le larron, il passera nous en parler tout à l'heure. C'est lundi et comme tous les 15 jours, Raphaël viendra nous faire sa chronique Histoire Brève. Aujourd'hui, il sera question de porte-avions nucléaires et de vaisseaux suédois. Et enfin, toi Corto, il y a une dizaine de jours, tu es allé au point sublime du côté du Roc du Hortou, sur le Cos, et t'en as pris plein les mirettes, t'en as ramené un petit reportage.
Effectivement, j'ai pris plein la vue, malheureusement personne ne pourra voir ça, mais c'était super.
En tout cas, ce sera en dernière partie d'émission. Voilà, joli programme aujourd'hui, il y aura de la musique comme d'hab, et on commence par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas.
Rarement une élection au Groenland n'aurait autant été observée. Le 6 avril dernier, les électeurs de ce territoire largement autonome du royaume du Danemark ont envoyé un message clair contre un projet de mine d'uranium et de terres rares dans le sud du pays. Toute la campagne avait tourné autour du lancement de l'exploitation de cette mine dans le sud du pays, donc par une société australienne, Greenland Minerals, dont un conglomérat d'états chinois, Sheng Resources, détient 11% du capital. Eh bien, c'est sûr, ils l'auront pas. Bonne nouvelle ? Pas sûr. En fait, ce choix des Groenlandais est un choix dans le mode de développement et dans l'avenir politique du territoire. C'est aussi un choix qui reflète des questions brûlantes plus globales sur la gestion de l'environnement. Depuis 2008, en effet, le gouvernement de Nuuk, la capitale du Groenland, dispose du contrôle des ressources naturelles. Le Danemark n'a plus la main que sur la défense, les affaires étrangères et la monnaie. Or, la plus grande île du monde est riche en ressources et attise les convoitises, bien sûr. Elle les attise d'autant plus qu'avec le réchauffement climatique, l'immense glacier qui occupe la majeure partie de sa surface commence à se réduire, libérant de possibles gisements. Parmi les ressources dont dispose ce territoire de 2 millions de kilomètres carrés, il y a celles qui sont indispensables aux technologies modernes et notamment à certaines technologies dites vertes, les terres rares. Ces métaux aux formes aux fortes propriétés magnétiques, optiques et conductrices se retrouvent désormais un peu partout. Dans les smartphones, certaines éoliennes, notamment offshore, les pots catalytiques et les semi-conducteurs. Le problème, c'est que l'exploitation de ces métaux est très polluante. Elle dégage une forte radioactivité et d'ailleurs, souvent, leur gisement est proche, comme dans le cas groenlandais, de celui de l'uranium. C'est en cela que ces métaux sont difficiles à exploiter et sont donc dits rares. En fait, le Groenland a choisi d'exploiter lui-même ses gisements pour être de plus en plus autonome et avoir les ressources financières nécessaires pour acquérir son indépendance. Et oui, c'est là. Argent ou le nerf de la guerre pour l'environnement, on repassera donc plus tard. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jean Sté des frères Jacquard. On écoute d'abord Rissé Barrier. C'est lui qui l'a choisi, c'est Jean Sté. Le morceau s'appelle « Putain de métier ».
Putain de métier, le beau métier, être putain, quelle destinée, donner aux hommes ce qu'on a de mieux, c'est tout le système du bon Dieu, joignant l'utile à l'agréable, elle soulage le contribuable, semant l'amour chez son prochain. Sa seule mission, c'est avant tout de faire du bien. Il faut se donner tout est là, comme dit monsieur le curé. Curé, le beau métier, lui aussi se se donne en entier, offrant son toit, ouvrant son lit, même à des filles peu repenties, il tend les bras devant son autel pour attirer la clientèle. Calice, burette et accessoires, il utilise tous les trucs de son répertoire. Pour chauffer le chrétien, il faut bien être un peu cabotin ou baladin. Baladin, le beau métier, moitié putain, moitié curé. C'est sur une scène qu'il fait le trottoir, et son calice c'est sa guitare. Avec son œil, il fait la quête pour convertir toutes les minettes. Quand on l'acclame, c'est Dieu le Père. Quand il se ramasse, c'est plutôt le Fils. Au caverne, il reste pété comme une pute qui n'a pas dérouillé. Putain de métier.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. On est bien sur Radio Bartas, on est bien en direct. Il est 6h17 et 50 secondes. Et pourquoi nous prenons le direct ce matin? J'ai la chance et le plaisir d'être accompagné par Jean Sté des Frères Jacquard. Salut Jean Sté.
Bonjour à toi et bonjour tout le monde.
Alors pourquoi t'es là et pourquoi on prend ce direct? Et tout simplement parce que ça y est, tu prends la poudre d'escampette et tu as décidé d'aller voguer, voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et si elle est plus verte ailleurs, en Bretagne, ça va? T'as pas trop le blues?
J'ai pas du tout le blues, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie. Et voilà, il faut dire, ça fait 27 ans que je suis par là. Hein, et il est temps d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors, tu vas me demander quelles sont les raisons.
Hein, quelles sont les raisons?
Eh bien oui, évidemment.
Quelles sont les raisons?
Quelles sont les raisons? Est-ce une fuite ou est-ce que c'est un nouveau départ? Effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être un mélange de plusieurs choses. Peut-être ça peut être un exil fiscal en République choufleurifère de Bretagne, tu vois, parce que peut-être il y a moins d'impositions, je ne sais pas, je vous le dirai. Peut-être c'est pour me rapprocher, j'ai un amour immodéré des produits issus du porc, donc peut-être je me rapproche de la source par pur vice, tu vois. Peut-être c'est ça, ou peut-être c'est un rapprochement avec la perfide Albion, ou alors pour monter un juteux trafic de vaccins. Je ne sais pas, puisque apparemment il y en a plus là-bas.
Je t'en connais bien là. Ouais.
Oui, ouais. Ou alors, je sais pas, c'est pour aller dans au plus près du palais breton. Alors pour ceux qui connaissent pas le palais breton, c'est pas une énorme bâtisse avec des tours en forme de bombarde, hein, pas du tout. C'est un jeu fort intéressant. C'est comme la pétanque si tu veux, sauf que les boules sont pas rondes. T'envoies des petites galettes de ferraille sur une planche et au moins t'as pas à aller à Jaille pour récupérer tes trucs, hein, si tu vises bien.
D'ailleurs, il y a le festival est le plus gros, la plus grosse compétition du jeu de palais qui est maintenant à Saint-Laurent-de-Trèves. Chez notre cher Bertrand.
Depuis l'été dernier. Exactement. Effectivement. Mais il faut dire, voilà, on est quand même dans un pays avec de nombreux Vikings et de nombreux Bretons. On a beaucoup de représentants des pays du Nord et du Nord-Ouest. Et je retourne peut-être aussi à mes origines.
Ah, c'est beau.
C'est vrai que je suis né près de la mer. Je ne vous dirai pas où. Mais je suis né près de la mer et peut-être c'est l'air iodé qui me rappelle à elle. Et peut-être c'est à cause de Guy aussi, avec tous ces produits de la mer là, qui est venu nous en vendre depuis quelques années à Florac, qui m'a fichu ce blues. Et du coup je vais retourner à la source, à la base, quoi.
Ce moment extraordinaire du dimanche matin où on se retrouvait tous, tu te souviens?
Ah, c'est bien parce que depuis un an on peut tous parler comme des vieux. Oh, tu te souviens?
Tu te souviens, c'est clair.
Qu'est-ce que tu vas retenir de la Lozère?
Ah, je vais retenir surtout une vie de cocagne, en fait, une très bonne vie. Ouais, j'ai passé mes plus jeunes années et puis de très belles années, quoi. Et une vie où si tu veux bien manger, bien vivre, bien respirer, c'est quand même the place to be, quoi. Ouais. Après, bon, je peux pas te cacher que j'en ai marre des piafs le matin, à n'importe quel moment de la journée. J'en ai assez des sangliers bourrés le samedi soir sur les routes qu'il faut éviter à tout prix. Il y a quand même des contraintes aussi, hein, faut le dire. Et puis, à vrai dire, le premier confinement, là, c'était le chant des débroussailleuses. À longueur de journée, des bricoleurs, alors que d'ordinaire, c'était plutôt calme quand ils étaient au travail.
Pire que les embouteillages parisiens.
Voilà, du coup, je me suis dit non, c'est plus possible.
Ah, et Descartes-Sezon disait qu'il ne pleuvait que sur les cons en Bretagne. T'es d'accord ?
C'est vrai. J'ai déjà fait un petit voyage là, j'y suis resté une semaine, il n'a pas plu du tout.
Comme quoi ? Oh.
Comme quoi, ça me rassure.
Suce au cliché.
ça me rassure quant à moi-même.
On va en parler quand même un petit peu avec ta fratrie. Comment ça se passe là en ce moment ? Compliqué, hein ?
Alors, c'est comme tout le monde. Donc, on a écouté ce morceau là précédemment de
Rice
et Barrier, voilà, et qui parlait du métier d'artiste, de baladin. Quel beau métier, moitié putain, moitié curé, c'est sur la scène, voilà, etc. D'ailleurs, je vous encourage à aller écouter un peu plus loin la discographie de ce vieux monsieur qui a disparu il y a quelques années. Et un grand chansonnier avec des paroles toujours très éclatantes. Et ben les frères Jacquard, évidemment, ça va continuer, mais on n'a pas d'échéance. Donc oui, des concerts, il y en a. Il y a quelques courageux qui n'ont pas encore annulé. Mais ça c'est très difficile d'organiser des concerts dans ces conditions. Donc effectivement, on va d'annulation en report, en annulation en report. Mmh. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir quelques projets, bien sûr. Disons que tous les gros festivals, eux, ont forcément annulé. Il y a quelques concerts à échelle plus modeste qui gardent encore un joker sous la manche, quoi, pour se dire peut-être ça va s'améliorer. Mais bon, ça fait un moment qu'on va de déconvenu en déconvenu. Donc, on peut se donner rendez-vous en 2023.
Ah ouais, croisons les doigts.
Non, mais voilà. Puis sinon, nous, on continue à travailler. Là, on a un projet de clip qu'on va tourner au mois de mai. On va profiter du fait que la bambouseraie d'Anduze soit fermée pour la prendre comme décor.
Excellent.
Hein, voilà. Et puis on a des envies d'une nouvelle création pour spécialement pour les spectacles de rue, puisque la dernière création qu'on a faite, c'était pour le théâtre, que d'ailleurs on devrait venir jouer un jour sur Florac.
Ah, hey, ça c'est de l'info, oui, ça.
Il paraît que ce serait aux alentours de l'automne, mais pour le moment, bon, hein, on peut pas dire que
c'est toujours la même chose. Ça. Voilà. Non, on sait pas en fait.
Mais normalement, enfin, les vilains garçons reviennent au pays. Hein.
ça fait du bien. La Bretagne, c'est beau, c'est merveilleux, c'est magnifique.
Ah oui, j'adore. Oui, bien sûr. En plus, c'est il y a beaucoup de parallèles avec les gens d'ici, quoi. On est un petit peu ici, on est un peu sur une île. J'ai toujours trouvé qu'on était un petit peu comme des Iliens ici, ouais. Et là-bas, ben voilà, par force des choses, c'est un peu la même chose. On peut passer à Rennes, mais on peut pas passer par hasard à Guingamp ou à Brest. C'est pas, il faut y aller.
On est voisins, hein, c'est pour ça qu'on est là, puisqu'on s'est croisés samedi soir presque par hasard.
Oui.
Est-ce que c'est aussi des raisons éthyliques qui t'amènent?
Absolument pas. Absolument pas, puisque ça c'est, je pense, alors il y a toujours des gens pour se targuer d'être dans le département le plus consommateur, que ce soit au nord-est, au nord-ouest ou dans le sud.
Et tout le monde se donne la palme. Hein.
Oui, c'est ça. À force de sillonner les routes de France, on peut constater qu'il y en a qui s'en vantent pas, mais qui sont bien placés quand même. Donc non, ça c'est absolument pas... c'est pas absolument pas moteur.
Non, je suis d'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Est-ce que je veux rajouter quelque chose ?
Ouais.
Eh ben, Ouais, moi j'aimerais saluer tous ces gens que j'ai croisés sur ces presque 30 années et que vraiment je me suis régalé à tous vous rencontrer et puis c'était vraiment bonne vie et du bon temps et je ne suis pas né dans ce pays mais en y arrivant j'ai trouvé mon pays pour cette vie. Maintenant j'aspire, je vieillis hein, un petit peu comme tout le monde, j'aspire à une maison de plein pied. Et puis je voudrais citer pour finir l'ami Christian qui a disparu il y a quelques temps et qui disait sans cesse ici on ne fait que charroyer toute la journée, charroyer, transporter des trucs de haut en bas, de bas en haut, enfin voilà. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pars. Hein, vieillissant, j'ai plus envie de crapahuter sur ces pentes à 8, 10, 15, 27%.
Du coup, un petit plat pays et la mer, retour aux sources.
Voilà.
Avant de se quitter, tu as choisi pour finir un groupe qui s'appelle Guz 2.5. Là, tu m'as proposé ça. Guz quoi ? Alors, c'est quoi ce groupe, cet ovni un peu ?
Bah, c'est justement, c'était pour faire le lien avec la région de Rennes. C'est un groupe de Rennes. C'est un trio. Avant tout, c'est un trio qui joue beaucoup en rue, beaucoup en acoustique, et ce sont des musiciens terribles. Moi, j'adore vraiment ce qu'ils font. J'aimerais bien qu'ils arrivent à décoller. Alors, s'il y a quelques auditeurs qui vont aller écouter ce qu'ils font, j'en serais super content. Et puis, partager avec eux, voilà, c'est ce genre de musique un peu atypique. Donc, c'est une musique plutôt instrumentale. Ce groupe s'appelle Guz 2 et là on va écouter une formule électrique qu'ils ont et qui s'appelle Guz 25. Et voilà, c'est une musique moi qui me rappelle beaucoup des paysages sonores, c'est toujours c'est très imagé comme musique et moi elle me fait voyager. Donc allons-y pour Guz 25.
Le morceau s'appelle Cusco. En tout cas, Jean-Sté, ça a toujours été un plaisir pour nous de t'accueillir ici à Radio Bartas. Et pas que, c'est vraiment. Et bon vent à toi. Profite bien et que les vents te soient propices.
Mais évidemment. Et en plus, je voulais terminer là-dessus. Cette émission me permet de... Parce que je prends la route immédiatement après l'émission.
C'est vrai.
Et du coup, ça me permet d'avoir... Je génère. Hein, ma propre attestation. Comme ça, je ferai écouter l'émission si je me fais arrêter sur la route. Je leur dirai voilà, écoutez, je l'ai même dit à la radio ce matin.
Merci, allez. Bonne route à toi.
Ouais, et bonne vie à tous. We'll be right back.
Nous sommes ce matin avec Jean-Marc Chauvet, bonjour.
Bonjour.
Tu es journaliste et tu travailles notamment pour France 5, l'émission Échappée Belle, qui passe tous les samedis et chaque semaine sur l'émission emmène les téléspectateurs à la découverte d'une destination à travers des reportages et des rencontres. Et c'est dans ce cadre que tu es ici, hein, Échappée Belle, c'est presque 15 ans d'émission. Alors toi, tu travailles depuis quand et comment t'en es arrivé dans cette émission ?
J'y travaille depuis le premier jour en fait. J'ai commencé à l'émission 1. Et puis, 15 ans plus tard, je ne vois pas de raison de quitter cette émission parce que c'est un bonheur chaque fois renouvelé. Il y a eu tellement de belles rencontres aux quatre coins du monde et parfois au bout de la rue. Et vraiment, c'est un grand plaisir de travailler pour cette émission qui est bienveillante. Et les gens qu'on rencontre nous le rendent bien parce qu'ils nous disent qu'ils apprécient ce qu'on fait. Donc, ça conforte... cette envie de continuer. Donc, cette émission, on a voulu qu'elle soit au plus proche des gens et un peu comme Radio Bartas finalement, même si il nous arrive d'aller beaucoup plus loin, mais toujours avec bienveillance. Et je crois que c'est pour moi le maître mot, quoi.
Alors justement, ici, t'es là pour faire un. Petite série de reportages, en 6, hein, c'est ça, sur les Cévennes. Comment vous décidez ensemble dans Rydac, comment vous choisissez vos endroits où vous allez, c'est toi qui décides ou bien il y a une conférence de rédaction, comment ça se passe un peu ?
Alors les destinations, non, ce n'est pas moi qui décide, c'est pour partie le producteur et pour partie France Télévisions. France Télévisions souhaite par exemple que sur les 35 ou 40 émissions qu'on doit faire dans l'année, ils veulent qu'on en consacre la moitié à la France ou au Dom-Tom. Donc on fait des propositions de destination et France Télévisions les valide. Et puis ensuite, on attribue ces émissions à des réalisateurs. Dans le cas présent, dans cette émission, moi je suis en charge de la réalisation des reportages qui viennent ponctuer le voyage de l'animateur ou de l'animatrice. Et donc là, par contre, j'ai beaucoup de liberté pour choisir les thématiques. Et ça, c'est vraiment très agréable. Donc, en ce qui concerne les Cévennes, lorsqu'on m'a dit « Est-ce que tu es libre pour venir faire une émission sur les Cévennes ?» J'ai dit « Oui, avec grand plaisir, puisque je ne connais pas ce territoire. » j'ai commencé à chercher qu'est-ce que moi, j'aurais envie de découvrir sur les Cévennes. Même s'il faut que ce soit compatible avec l'ADN d'Échappée Belle. Mais comme je connais bien l'émission, finalement, je trouve facilement les thématiques qui peuvent correspondre. Donc je suis un peu libre et je suis allé là où j'avais envie d'aller finalement.
Alors justement, là, la situation sanitaire fait que tu aurais dû être ailleurs. Tu aurais dû être où normalement ?
Oui, c'est vrai que cette année, c'est pas simple de produire 90 minutes... aux quatre coins du monde. Depuis un an et demi, on peine un peu. Il y a beaucoup de destinations potentielles qui se sont fermées. Dans le cas présent, je ne devais pas être dans les Cévennes, je devais être en Jordanie. Et au dernier moment, l'émission était prête, on était, pour ainsi dire, dans l'avion. Et ça n'a plus été possible puisque les conditions sanitaires se sont durcies dans ce pays et on aurait été confiné plusieurs jours à l'hôtel, ce qui est absolument incompatible avec notre rythme de tournage. Donc on a tout de suite cherché mais où est-ce qu'on pourrait aller, et puis les Cévennes sont arrivés assez vite puisque ça fait bien 10 ans qu'on n'était pas venu. Et ça s'est trouvé que les choses se sont révélées possibles, donc on a choisi de venir en les Cévennes.
En amont, comment tu travailles, c'est-à-dire tu choisis tes reportages, tu passes combien de temps dans tes recherches avant de débarquer sur le territoire, à peu près ?
Alors le tournage me prend environ 10 à 12 jours, mais la préparation ça demande un mois et demi à 2 mois. Là c'est au bureau ou à la maison. Dans le cas présent, avec les conditions sanitaires, c'était à la maison, c'est des coups de fil de l'internet et on recherche des thématiques, des personnages, donc c'est un gros travail de préparation.
Alors une fois que tu auras fait tes reportages etc, t'as tes rushs, en fonction de quoi tu gardes ce qui va être monté, diffusé, c'est quoi, c'est des coups de cœur, c'est intéressant, ça colle à l'émission, est-ce que tu gardes tout ou comment ça se passe après pour le montage?
Non, on ne garde pas tout, même si on garde tous les personnages qu'on a filmés, Moi, j'aime pas travailler pour rien. Et puis, je n'aime pas non plus faire perdre du temps aux gens et que ne pas les retenir. Donc, en général, oui, toutes les séquences que je tourne, je les diffuse. Évidemment, pas dans l'intégralité. Hein, on en garde le quart de la moitié. Mais le montage également prend la même durée que le tournage, hein, 2 semaines également. Et là, on écoute tout ce qu'on a enregistré et puis on essaie de construire une histoire qui ait un rythme, qui ait du sens et qui soit agréable à écouter et à voir. Il faut que Échappée belle, c'est pas Échappée moche, hein, donc il faut que ce soit joli. Donc on fait ce travail de dérochage, comme on dit, et puis de construction d'un reportage selon des techniques de télévision très classiques. Hein.
Alors sans tout dévoiler, parce qu'évidemment tu viens presque d'arriver sur ce territoire, mais tu as déjà quelques idées de ce qui va se passer. Tu vas rencontrer qui à peu près, dans les grandes lignes?
Alors dans les grandes lignes, on a 6 reportages à faire avec ma collègue Béatrice Fanzin. On va explorer les thématiques. C'est vrai que dans l'image d'Épinal, les Cévennes, c'est le désert français. C'est un endroit où on vient, mais où on ne passe pas. On y vient volontairement. Toi, tu m'as dit tout à l'heure, des fois, on n'en repart pas.
C'est ça.
Et je peux le comprendre parce que c'est un territoire qui a l'air, un terroir même, qui a l'air très fort. Et donc, on va s'attacher à ces gens qui sont venus, qui ont changé de vie ici. On les a rencontrés hier dans le sud de Lozère, du côté de Saint-Michel-de-Dèze et de Portes. Des gens qui ont fait des choix de vie, qui rêvaient des Cévennes depuis très longtemps. On fera un reportage sur la faune cévenole qui est riche. Notamment avec cette réintroduction dans les années 80 des différentes espèces de vautours. Et on va essayer de voir comment ces animaux cohabitent avec les cévenoles. On va faire un reportage sur les médias locaux, dont Radio Bartas, la télévision Télédraille, et puis une autre télévision qui a ouvert en Lozère il y a un an. Voilà, donc des médias d'hyper proximité, et voir comment les gens de ce territoire s'approprient ce média pour le faire vivre, pour partager leur expérience, leur quotidien en Cévennes. On aura un reportage également, j'ai fouillé dans ma mémoire parce que c'est assez dense comme planning.
Au Pont-Mont Vert, du coup.
Oui, et bien, évidemment, pour nous, les Parisiens, les Cévennes, c'est aussi le chemin de Stevenson, notamment depuis la sortie du film Antoinette dans les Cévennes, qui a eu un gros succès. Donc voilà, et puis Échappée belle, c'est un magazine de découverte, donc il faut qu'on découvre, c'est du tourisme. Donc on va faire un petit reportage sur... On va faire une reconstitution avec nos petits moyens de ce que pouvait être... Le voyage de Robert Louis Stevenson. Donc on aura un comédien en costume du 19e siècle qui sera accompagné de son âne Modestine, enfin on va l'appeler Modestine, hein, et qui arrivera du côté du pont de Montvert à l'auberge des Cévennes, qui n'est plus tenue par Clarisse, comme il le cite dans son livre, mais par Eva Pulicelli, qui en a fait un lieu flambant neuf et visiblement très beau. On va découvrir ça. Et puis toute cette émission, vous pourrez la voir le 22 mai.
Ça c'est une bonne nouvelle. Justement, alors au-delà des Cévennes, 15 ans de reportage quand même, c'est-à-dire que tu as dû en voir des contrées, etc. Ça a été quoi ton coup de cœur avant les Cévennes que tu n'as pas encore découvert, qui en sera un pour toi, j'en suis persuadé.
Ah, j'ai envie de dire, j'ai eu presque que des coups de cœur, hein, vraiment. Et puis c'est difficile de comparer l'Antarctique avec le désert omanais. Chaque endroit a vraiment son charme. Donc, j'ai pas. Moi, personnellement, je suis plus attiré par les territoires de montagne. Donc, je me sens comme un coq en pâte ici, hein, dans les Cévennes. Mais oui, de belles expériences. Mais finalement, j'ai l'impression d'avoir rien vu. C'est certes, au bout de 15 ans, j'ai fait un petit fil rouge un peu tout autour de la planète. Mais j'ai l'impression de rien connaître finalement. Et donc voilà, j'ai encore un peu de fraîcheur, je suis content.
Toujours un œil neuf sur ce qui t'arrive en fait. Tu travailles en binôme, il faut dire que tu ne travailles pas tout seul.
Oui, je suis accompagné cette fois-ci avec Béatrice. On a travaillé pour la première fois ensemble, c'était à l'automne dernier. C'était une émission là sur le Val d'Aoste en Italie. Et ça a bien fonctionné, donc on renouvelle l'expérience. Donc elle m'aide pour la technique, mais aussi pour l'éditorial. Par exemple, c'est elle qui va réaliser le reportage qu'on va intituler « Vivre isolé ». Donc j'en dis pas plus, mais on a mis la main sur un personnage un peu rare, qui vit de manière très isolée, et c'est Béatrice qui va conduire ce reportage, puisque cette personne écrit des livres, et Béatrice a lu l'un de ses ouvrages, donc elle connaît mieux l'histoire que moi. Donc on travaille à deux, oui.
Jean-Marc, donc déjà une petite question, comment t'es devenu journaliste? Sait-on jamais si des jeunes nous écoutent, ça peut susciter des vocations, surtout quand on devient journaliste comme ça de terrain?
Alors moi, je suis pas tout jeune, je suis pas encore âgé, mais je suis d'une génération où on pouvait prendre des chemins de traverse. Et donc je n'ai pas de formation de journaliste. J'ai fait une école de cinéma, de chef opérateur de cinéma. Mais à cette époque-là, donc c'est au début des années 90, je rêvais de montagne déjà. Moi, je suis né au bord de l'océan Atlantique, mais j'ai toujours eu les yeux tournés vers l'est, vers les Alpes ou le sud, les Pyrénées. Je rêvais d'alpinisme et de choses comme ça. Et donc, lorsque j'ai eu terminé mes études de cinéma, c'était la période des JO d'Albertville. Et c'était une opportunité pour moi de pouvoir les travailler là-bas. Ce que j'ai pu faire, je suis resté. Les Jeux sont terminés, je n'ai pas voulu repartir. Comme certains n'ont pas voulu repartir des Cévennes, moi je n'ai pas voulu repartir des Alpes. Et je suis allé taper à la porte d'un média local, qui était une télévision locale, qui s'appelait TV8 Mont-Blanc. Et c'est ici que j'ai appris le métier de journaliste. On m'a dit, tiens, tu prends une caméra, tu prends un banc de montage, tu vas t'installer dans ta vallée. Et donc j'étais correspondant d'une vallée. Vraiment, j'imagine que ça ressemble un peu à la manière dont vous pouvez fonctionner ici. Et donc j'ai appris ce métier sur le terrain, avec beaucoup d'erreurs, mais avec beaucoup de joie. Et j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Et puis lorsque je me suis estimé assez fort, eh bien, je suis allé vers les sociétés de production, vers les chaînes nationales. Il s'est trouvé que les gens qui avaient créé la chaîne locale, TV8 Mont-Blanc, sont les mêmes qui ont créé l'émission Échappée Belle. Donc on s'est retrouvés 15 ans plus tard, un peu tous, rassemblés autour de ce projet d'émission Échappée Belle. Donc les gens avec qui je travaille aujourd'hui, mon producteur, c'est la personne qui, lorsque j'avais 22 ans, m'a donné ma caméra et m'a dit « va faire des reportages dans ta vallée ». Et aujourd'hui, c'est lui qui m'envoie au bout du monde. Et je trouve que l'histoire est plutôt sympa.
Ah, c'est une belle histoire.
Ouais, c'est-à-dire, voilà, c'est une histoire d'amitié qui dure.
Ce qui est rare dans l'audiovisuel.
Alors maintenant, voilà, moi, les jeunes, c'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui de passer à côté des écoles de journalisme. Mais pourquoi pas, là où il y a une volonté, il y a un chemin, dit-on, hein, une draille.
Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait justement se lancer là-dedans, dans le journalisme?
Je lui dirais quoi? C'est compliqué. Je dirais quoi? D'avoir la foi déjà. Et puis, oui, c'est essayer de faire une école de journalisme. Ouais. Mais j'espère qu'on peut faire autrement.
J'ai fait autrement, ça marche aussi pas mal. Échappée Belle en Cévennes, c'est le 22 mai, c'est ça?
Ça sera diffusé le samedi 22 mai sur France 5 à 20h50. Rediffusion une semaine plus tard, le dimanche. Début juin, donc le premier dimanche de juin à 10h50. Et puis c'est visible en replay pendant un mois sur francetelevision.fr.
Merci Jean-Marc.
Merci beaucoup.
Tu es journaliste pour cette jolie émission. Bon séjour, éclatez-vous bien vraiment dans notre belle Cévennes. À bientôt.
À bientôt.
C'est lundi et vous vous y habituez maintenant tous les 15 jours. Raphaël est avec nous. Salut.
Salut.
Histoire brève, je vais y arriver. Tiens, c'est lundi, je me réveille aussi. Hein. Histoire brève, t'es chaud?
C'est parti.
Allez, on y va, jingle.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein ?
Histoire brève, histoire brève.
À l'heure où les grandes puissances internationales aspirent à reprendre le contrôle des mers, la France a fait le choix de se payer un nouveau jouet. Mais bon, ce n'est pas pour tout de suite. Le futur porte-avions en propulsion atomique, annoncé en décembre 2020, devrait coûter 4 à 5 milliards d'euros et pourra prendre les flots d'ici 2036. Ne souriez pas, monsieur de Paris. C'est un investissement sur le long terme, et un tel engin demande à être bien réfléchi en amont pour éviter une catastrophe comme celle qu'ont connue les Suédois en 1626. Non, monsieur de Paris, je ne faisais pas référence à la naissance du groupe ABBA. Quelle médisance. Je fais référence à quelque chose de bien plus grave. Savez-vous ce qu'est le VASA ?
Absolument pas.
Avant de répondre à cette question, dressons ensemble le contexte. Nous sommes dans les années 1620, en pleine guerre de 30 ans, où les principaux royaumes d'Europe centrale s'entre-déchirent. Le Saint-Empire romain germanique est au bord de l'implosion. De son côté, le roi de Suède, Gustave Adolphe Vasa, un roi dont le prénom s'est malheureusement perdu dans les méandres du temps, ambitionne de faire de la mer Baltique un lac suédois. Pour cela, il décide de rajeunir son armée et de rééquilibrer sa flotte, de rééquiper sa flotte pour pouvoir venir se joindre à cette joyeuse mêlée en Prusse. La marine de l'ambitieux roi devait avoir comme fer de lance 5 immenses vaisseaux, dont le plus grand, le plus gros, le plus beau des navires serait le Vasa, baptisé ainsi à l'honneur de sa dynastie royale. En 1626, la construction commence et ainsi naît un immense bateau, long de 69 mètres, haut de 48 mètres, doté de 3 mâts, 10 voiles représentant une surface totale de 1275 mètres carrés et ayant une capacité de 1400 tonneaux. Pour l'armée, le roi commande pas moins de 56 canons et 2 obusiers. Et encore, je ne parle pas des sculptures somptueuses qui ornent la poupe et la proue de ce navire extraordinaire sur tous les rapports. Enfin, après 2 ans de travaux et un investissement colossal de 52 000 thalers pour le petit royaume suédois, c'est une fortune, le 10 août 1628, le Vasa peut enfin être lancé pour son voyage inaugural. Le temps est calme, le vent réduit. Le vaisseau est remarqué sur le front de mer de la rive sud du port et il commence à prendre la direction de l'est. Les sabords s'ouvrent et une salve de canons rend hommage à la foule restée sur les quais de Stockholm pour assister à l'événement. Mais alors, 2 petites rafales de vent font dangereusement tanguer le bateau qui connaît une importante voie d'eau au niveau des sabords restés ouverts. Et en un instant, l'immense, le magnifique, le somptueux Vasa sombre corps et biens, englouti par la mer, se calant dans la vase par 32 mètres de profondeur. N'étant pas loin du port, de nombreux esquifs ont pu porter secours aux malheureux naufragés et beaucoup sont ainsi sauvés. On déplore tout de même 30 à 50 morts. La tragédie nous est rapportée par les très nombreux témoins venus assister au lancement du plus beau vaisseau de la marine suédoise, y compris de nombreux ambassadeurs étrangers, alliés ou ennemis. Le roi, absent pour l'inauguration de son Vasa, est furieux lorsqu'il apprend le désastre. Le capitaine du navire, qui survécut au naufrage, est immédiatement incarcéré pour imprudence et négligence.
Tu m'étonnes.
Puis, c'est le constructeur qui est mis en cause, et finalement, tout le monde se met d'accord pour expliquer que ce désastre est un acte de Dieu.
Bah oui.
Mais l'histoire du Vasa ne s'arrête pas là. En 1961, on parvient, après de nombreuses tentatives, à faire remonter le navire des profondeurs. Avec l'épave, les archéologues découvrent des milliers d'objets tels que des vêtements, des armes, des outils, des pièces de monnaie, de la nourriture, ainsi que les restes d'au moins 25 personnes. Grâce à cela, nos connaissances sur la construction navale et la vie quotidienne des Suédois de ce début du XVIIe siècle ont considérablement avancé. Le Vasa, quant à lui, est soigneusement restauré. Pour expulser l'eau salée qui a imbibé la coque en bois immergée depuis 333 ans, il est aspergé jour et nuit d'un mélange d'eau, de cire et de polyéthylène glycol pendant 17 ans. Les milliers de morceaux en bois sont récoltés et le Vasa, tel un puzzle, est réassemblé, exposé dans un immense musée qui ouvre ses portes au public en 1990. Aujourd'hui, le musée Vasa, à Stockholm, est en termes de fréquentation le 2e musée suédois et accueille chaque année plus de 1 million de visiteurs. Quelle aventure pour ce navire passé à la postérité pour avoir vogué 1 000 nautiques, soit 1,8 km. Pourvu que notre futur porte-avions ne connaisse pas le même sort.
C'est clair, ouais, comme quoi le Vasa n'a pas fait que flop. Merci beaucoup Raphaël, on se voit dans 15 jours.
À dans 15 jours.
Qu'est-ce qu'on écoute ?
Cocoon, Chuppy.
Ouais, c'est parti.
profondeur du texte. Hello, 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 hello. Cocoon Chuppy, c'est un super morceau. Corto, il y a une dizaine de jours, t'es allé au Rock des Hurtous. Explique-nous tout.
Oui, alors du coup, j'ai été invité le mercredi 31 mars par la communauté de communes des Gorges du Tarn, Jonte et Causse, je crois que c'est ça.
Bravo, ça y est, tiens.
Ouais, je l'avais raté. Et voilà, en fait, ils ont organisé un atelier pendant une journée entière où ils allaient dans différents points des Gorges du Tarn, où il y avait une quinzaine de personnes invitées à peu près. Donc l'idée, c'était de faire un atelier dessin où les gens donc ils dessinaient le territoire parce qu'en fait ils veulent acquérir le titre de grand site de France et pour ça ils ont besoin d'un logo. Donc les gens en fait ils dessinaient les traits vraiment représentatifs des territoires parce qu'il faut que ce soit un logo vraiment simpliste mais où t'as vraiment des traits très représentatifs quoi, bien dessiner les gorges, les causses et tout ça. Et voilà, du coup j'ai interrogé Marie-Amélie Pen qui travaille donc à la communauté de communes, il y avait également Franck Wattel qui est graphiste et Alain Freinet paysagiste, voilà, on les écoute.
Corto, au retour, c'est parti.
Il faut qu'on trouve des solutions concrètes pour inciter les visiteurs à aller voir d'autres points, à pas se concentrer et puis à venir aussi sur les ailes de saison, au printemps, en automne, ça c'est un peu l'enjeu aussi du programme Grand Site.
Quelle est du coup l'action de la communauté de communes concrètement par rapport à tout ça?
Mais si je peux citer un exemple concret, hein, parce qu'on a 15 ans d'action derrière nous, donc je vais pas tout lister. Pour faire court, là, par exemple, on lance une étude à l'échelle du grand site. Donc, ça sera le schéma d'accueil et de gestion des camping-cars et véhicules aménagés. Donc là, on touche vraiment une question très ciblée, qui est l'accueil des camping-cars et des vannes et véhicules aménagés, hein, qui sont en essor depuis plusieurs années. Donc cette étude va être menée par un cabinet d'études spécialisé dans les camping-cars, associé avec une architecte paysagiste. Et on va associer tous les services de l'État également et les partenaires locaux à cette démarche. Et il s'agira de faire un diagnostic, d'identifier où sont les problèmes que peuvent poser ces camping-cars et comment on peut trouver des solutions pour mieux les accueillir, créer par exemple des aires d'accueil sur certains points précis ou les inciter à ne pas aller à certains endroits et plutôt à d'autres, éviter les stationnements sauvages et les concentrations sur des points paysagers sensibles. Voilà, c'est un exemple.
Et du coup, une dernière question, on est ici au Point Sublime, donc qui porte plutôt bien son nom, malheureusement les auditeurs ils peuvent pas voir ça. Tu peux nous parler un peu de cet endroit?
Oui, c'est un point emblématique, là on a une vue plongeante sur les gorges du Tarn. On voit à la fois la rivière Tarn, limpide, cristalline. On voit les versants des gorges avec beaucoup de falaises, d'affleurements rocheuses. On perçoit les causses qui ne sont pas plats, mais très très vallonnées finalement. Et puis, on a souvent la chance en venant ici de voir un vol de plusieurs vautours. Donc voilà ce que je peux dire sur le site.
Eh ben merci beaucoup en tout cas et puis bonne journée.
Merci beaucoup d'être venu et à la prochaine fois.
Alors on est en compagnie de Franck Wattel qui est donc graphiste. Bonjour Franck.
Bonjour.
Alors est-ce que tu peux te présenter un peu brièvement, nous parler de ton rôle un peu ici?
Alors moi je suis concepteur graphiste, scénographe et aujourd'hui et demain. Je participe à une formation et un travail de réflexion pour la mise en place d'un nouveau logo pour le grand site, l'opération Grand Site, Gorge du Tarn, Gorge de la Jonte et Causse. Donc nous sommes sur le terrain avec toute une petite flotte de participants et d'intervenants dans les Gorges du Tarn, pour essayer de ressortir les motifs emblématiques du paysage pour pouvoir les utiliser après dans un logo symbolique qui rentre dans la charte des grands sites de France. Les grands sites de France ont pour politique graphique d'avoir une charte assez précise et qui représente donc le paysage avec des motifs emblématiques sous une forme très symbolique et très simplifiée de grands traits. Il faut être très simple, mais il faut que ces traits-là représentent très précisément le territoire. Et pour ça aussi, il faut qu'il y ait un consensus sur ce qu'on veut mettre en place. Et c'est l'intérêt d'avoir un atelier participatif avec des acteurs multiples, nombreux, qui ont une vision chacun précise de leur territoire.
Alors du coup, à quoi il sert ce label en fait du Grand Site de France exactement ?
Alors le label Grand Site de France permet de définir un peu plus les sites classés, puisque c'est des sites classés en France avec une réglementation et une attention très particulière sur ces sites. Et le logo permet de les caractériser et que le grand public puisse de son côté les percevoir d'une manière forte et que les acteurs de terrain puissent aussi se partir en troupe et grouper sous cette bannière de grands sites de France, de sites classés.
Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce lieu où on est, le point sublime qui porte très bien son nom d'ailleurs ?
Eh bien, je le découvre, enfin, je le connais depuis un moment, mais aujourd'hui, l'atelier, je vais le découvrir, puisqu'il faut le regarder avec un regard neuf et arriver à en sortir des traits, des structures paysagères et aussi architecturales et naturelles. Donc je vais le regarder avec un œil neuf, comme tous les participants qui sont là, même s'ils le connaissent bien. Alors c'est un des quatre sites qu'on a choisi pour cette journée. Nous allons faire une boucle, nous attaquons avec ce côté des gorges, nous allons aller au pied des gorges, sur le Tarn, sur les rivières, hein, Tarn, Najon. Et puis après, nous allons remonter de l'autre côté pour avoir une autre vue du Causses de l'autre côté. Donc on essaye d'avoir une vision, même si on ne peut pas tout faire sur une journée, d'avoir un atelier qui va se poser sur quatre lieux un petit peu symboliques. Et demain, nous allons travailler en atelier pour débriefer et pour faire un retour de toute notre journée et faire un tri déjà, un premier tri de ce qui nous paraît important et à faire apparaître au niveau graphique sur le logo. Alors cet atelier va nous permettre de bien préciser le travail sur le logotype, mais aussi va permettre d'alimenter les dossiers d'opération Grand Site de France avec des éléments qu'on ne pourra pas mettre sur un logotype, qu'il faut qu'il soit très 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 simplifié, puisque c'est des traits façon japonaise, un petit peu des traits de pinceau sur la charte graphique des grands sites. Mais tout ce qu'on va mettre en valeur durant cet atelier va servir aussi pour développer le dossier Opération Grand Site de France. Alors ce que j'ai pas dit, c'est qu'en plus du graphisme, il y a une couleur emblématique pour chaque Grand Site de France et qu'au terme de cette journée et de cet atelier demain à midi, normalement, on devrait déterminer la couleur des grands sites, du Grand Site de France, gorge du Tarn, de la Jonte et d'Écosse.
Et la couleur, du coup, elle est censée représenter quelque chose de...
Oui.
D'emblématique.
Ben oui, il va falloir. Alors, ça dépend bien sûr de la période, ça dépend de la période de l'année, ça dépend du temps. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir un temps magnifique. Donc, la lumière va nous faire ressortir les couleurs du printemps. Mais c'est important parce que chaque grand site de France a choisi sa couleur. Et voilà, bah les gorges du Tarn vont choisir aussi leur couleur pour rentrer dans ce label Grand Site de France.
Et vous avez déjà une idée du coup pour la couleur du label ou...
Ah, moi j'arrive complètement vierge, sans aucune idée. Et j'espère que demain à midi, j'aurai précisément le choix de la couleur.
Bon bah à voir, alors ça sera la surprise. Hein.
Et voilà, c'est ça la magie de la vie, c'est l'avenir est toujours une surprise.
Et ben merci pour cette petite interview en tout cas.
Ben, y a pas de quoi, avec plaisir, je vais retourner dessiner les gorges.
Alors on est en compagnie de Alain Frété, qui est donc paysagiste. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alors est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton travail ?
Donc, je suis paysagiste là, on a une mission un peu particulière qui n'est pas de faire du projet de paysage, mais qui est de réfléchir dans le cadre du grand site Gorge du Tarn de la Jonte et des Causses, dans un premier temps, au logo qu'on va mettre en place, c'est-à-dire quels sont les motifs qu'on va pouvoir assembler pour avoir une image le plus partagée possible de, finalement, comment on peut représenter ce grand site de France. Mais à travers la recherche de ces motifs, de ces grandes structures du paysage, qu'on va retrouver de façon très synthétique sur un dessin qui permettra de signer finalement le grand site, c'est toute la réflexion autour des motifs qui nous intéresse, puisque aujourd'hui, on est en train d'écrire un dossier pour vraiment avoir le label Grand Site de France. Et ce dossier, on va aussi l'alimenter par cette réflexion croisée, qui a déjà eu lieu, mais avec l'ensemble des partenaires. Donc là, on a des élus, on a des gens qui travaillent dans la vallée, on a des techniciens des Comcom, enfin des paysagistes, enfin voilà, le parc national, donc énormément de gens, et on partage sur qu'est-ce qui fait la valeur et la beauté de ces paysages. Comment on peut mettre des noms là-dessus? Quels sont les motifs auxquels on est attaché? Alors, il y a des grands motifs emblématiques, la falaise, la rivière, le causse, et puis des motifs plus d'accompagnement auxquels on tient, la lavogne, le pin sylvestre, le piton. Et tout ça, on va essayer de les nommer, d'en parler, de les décrire, dans l'objectif de mieux partager ce qui fait la beauté des lieux. Mais dans un deuxième temps, ça sera aussi l'objectif de savoir comment ces motifs peuvent être mis en valeur pour qu'un visiteur puisse les découvrir avec le plus grand bonheur possible. Et là, on touche là déjà à l'aménagement. Et l'objectif d'un grand site, c'est toujours se dire, il faudrait qu'un visiteur, il arrive sur un grand site comme s'il n'avait jamais été aménagé, comme s'il était le premier à le découvrir. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aux visiteurs, d'arriver et d'avoir cette émotion de découvrir un site comme si on était les premiers à l'avoir découvert. Et ça, c'est une subtilité de l'aménagement, c'est l'aménagement qui ne se voit pas. Et des fois, on va être obligé de désaménager, parce que des fois, on en a fait un petit peu trop, des barrières, des rambardes, des routes qui vont un petit peu trop loin. Donc des fois, on est obligé, par soustraction, pour faire en sorte qu'à la fois, on puisse accueillir dans les meilleures conditions possibles, mais à la fois que le pays garde toute sa valeur, son authenticité et sa force.
Donc le label Grand Site de France que la communauté de communes cherche à acquérir pour ce lieu, c'est essentiellement pour l'aspect touristique?
Alors c'est l'aspect touristique, mais c'est aussi pour les gens qui y habitent. C'est la fierté d'être dans un pays qui est quand même reconnu à un niveau national comme étant parmi les plus beaux sites de France. C'est aussi s'assurer que la fréquentation et parfois la surfréquentation ne va pas abîmer ces sites. Et donc là, grâce au travail des services de l'État, la DREAL, l'inspectrice des sites, on s'assure qu'on ne va pas trop en faire. Donc c'est aussi pour les gens qui habitent ici, pour qu'ils se sentent toujours chez eux, qu'ils ne se sentent pas submergés. Et le grand site, la valeur, l'intérêt, c'est cette gouvernance qui met en relation l'ensemble des partenaires pour réfléchir ensemble au meilleur, à la meilleure stratégie, au meilleur traitement, aux meilleurs aménagements possibles qui permettent à la fois d'accueillir, mais à la fois de garder la valeur et l'authenticité et la beauté des paysages.
Oui, tu parlais du coup tout à l'heure du lien entre l'accueil touristique et la préservation du site. Est-ce que c'est deux choses qui sont vraiment compatibles du coup ?
Eh bien, c'est tout l'enjeu des grands sites de France. Mais quand on est à Étretat, quand on est à la pointe du Raz, quand on est sur la dune du Pilat, on est toujours confronté à ça. Et finalement, le pari, c'est que c'est compatible. C'est qu'on va pouvoir à la fois accueillir, mais il y a des conditions d'accueil. Il y a des endroits où on va mettre des navettes en place, où on va ne plus permettre de se stationner là parce que c'est vraiment trop dangereux et ça mange le paysage. Voilà, donc on va avoir des aménagements, des process. Le tout, c'est que tout ça doit se faire de façon partagée avec tout le monde, et notamment avec les élus locaux qui sont quand même ceux qui gèrent ce site. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est pour ça que la gouvernance dans le cadre des grands sites est vraiment quelque chose de fondamental. Il n'y a plus une décision qui se prend de façon verticale, ruisselante d'un côté. On est ensemble pour partager une vision et partager un projet.
Et du coup, on est ici au Point Sublime, qui porte plutôt bien son nom d'ailleurs. Tu peux nous parler un peu de ce lieu ?
Ah, c'est un lieu assez incroyable parce qu'on voit les gorges là faire un coude et du coup livrer une profondeur. Et là, on a commencé ensemble à partager effectivement un certain nombre de vocabulaire. Hein, donc le chaos rocheux, l'émergence, ces monolithes comme des gardiens des gorges. Enfin, voilà. Donc là, on a une richesse de vocabulaire grâce aux échanges qu'on vient d'avoir à l'instant avec, là, on est une quinzaine. Hein, et puis chacun a dessiné. Chacun a écrit des termes et des mots, et ça va nous permettre de mieux partager. Enfin, c'est l'imagination collective, l'énergie collective qui fait que le point de vue qu'on va avoir sur la beauté de ces paysages, c'est bien sûr un point de vue que l'on a chacun, donc c'est subjectif, hein, mais d'avoir cette subjectivité partagée, finalement, on se rend compte qu'on se retrouve sur les grands fondamentaux. C'est pour ça que le paysage, c'est bien sûr une question de perception personnelle, mais c'est une perception personnelle qui est tellement partagée que finalement, on peut bâtir une construction collective autour de cette beauté.
Eh ben, merci Alain pour tes réponses, et puis bonne journée à toi.
Eh ben, on va poursuivre à dessiner tous ensemble et à partager. Merci, au revoir.
Et merci Corto, bravo.
Eh ben de rien, c'était un plaisir, hein, franchement.
Ah ouais, quand tu parles là-haut, c'est sûr. Allez-y au Rock Your Two, allez voir ce point sublime. Ben voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci à toutes et tous de nous suivre. On se retrouve mercredi avec Guillaume, qui est directeur de la Nouvelle Dimension. Pour parler de quoi ? Eh bien du Festival 48 Images Secondes, qui aura lieu ce week-end. Évidemment, on ne s'y fait pas, mais ce sera en ligne. Mais bon, au moins il se fait cette année, donc c'est cool. Il nous en parlera. Et ben voilà, alors à mercredi, prenez soin de vous, portez-vous bien. On se quitte avec Brassens, la maîtresse d'école. À mercredi, ciao.
À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvenés, des cancres, des crétins crasseux. En travaillant exclusivement que pour nous, les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser. Un baiser pour de bon, un baiser libertin. Un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin. Aux pupitres alors, quelque chose changea. L'école buissonnière eut plus jamais un chat. Et les pauvres marchands de bonnets d'âne, crac, connurent tout à coup la faillite, le crac, la faillite, le crac. Lorsque le proviseur, à la fin de l'année, nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellence ex aequo. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à une heure indue, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile, alors recteur d'académie de l'école. En dépit de son beau palmarès, on chassa pour toujours notre chère maîtresse. Le cancre fit alors sa réapparition. Le fort anthème est redevenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco. Nous étions tous derniers de la classe, ex-aequo de la classe ex-aequo. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe.